soir et merci de nous suivre dans cette deuxième partie d'émission. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Chénaz
pour sur évoquer... Agora FM.
Sur Agora FM pour évoquer Aime-moi Casanova à la série noire et le dernier sorti Versus. Alors je suis monomaniaque, j'aime bien trouver des thèmes sur l'ensemble des livres et c'est vrai que non pas un thème mais un mot qui revient dans toutes les parties de ces romans, c'est le mot obsession. Il revient vraiment à tous les niveaux, ce mot. Au niveau de certaines descriptions, en particulier, alors au niveau de la balistique, description des armes. C'est d'une précision, j'ai appris plein de choses. C'est un sujet qui vous intéresse ou il fallait encore une fois aller jusqu'au bout ?
Oh, c'est un sujet qui m'intéresse en tant que... on va dire en tant qu'outil létal simplement. Ça me permet aussi de en particulier si on s'attache à la balistique légionnelle, qui concerne le parcours des balles dans le corps humain, ça me permet d'explorer le corps humain.
Merci d'explication, voilà. Je ne savais pas. Voilà. Balistique légionnelle.
Voilà, exactement. C'est une manière d'explorer le corps, un petit peu détourné, on va dire.
Alors, deuxième obsession dans les thèmes aussi, c'est justement les sciences médicales. Il y a aussi des précisions, moi qui suis un peu dans le métier, ça m'a déjà d'ailleurs fait très plaisir, mais aussi des choses, des détails dont peu de gens sont au courant. Vous travaillez comment ? C'est des connaissances que vous avez ou que vous allez chercher parce qu'il faut qu'à ce moment-là, vous alliez jusqu'au bout, je dirais presque, de l'impulsion
nerveuse. La documentation
nerveuse. Oui.
Pas. Voilà, exactement. C'est un petit peu un mélange des deux. C'est à la fois des choses que je sais, que j'ai appris à l'école, et de la documentation, effectivement. Mais tout ça, toujours au service de l'histoire et toujours au service éventuellement de l'ambiance.
Alors, ambiance obsessionnelle, personnage obsessionnel et le style. Alors moi, c'est ce qui m'a vraiment enthousiasmée dans l'un comme dans l'autre, et particulièrement dans Versus. Au départ, c'est vrai que encore un roman de 500 pages, mais on capte à la première page qui est d'une fureur, de bruit et de fureur, et on termine, ça commence à 200 à l'heure, mais ça s'arrête jamais, ça va jusqu'à la 500e page. Et ce qui est très caractéristique dans le style, c'est des énumérations, des listes de mots, d'expressions, de thèmes. Alors je vais lire un petit extrait. L'extrait n'est pas du tout choisi au hasard parce qu'il y en a plein d'énumérations, mais ça va nous permettre de parler plus après de Versus. Alors, je commence. Des gosses tués, abusés, torturés, mutilés, brisés, violés, battus, séquestrés, anéantis, niés, jetés aux ordures, meurtris, abandonnés, brûlés, pillés de l'intérieur, cramés, saccagés, vif foutus, détournés, dévoyés, corrompus, dévastés, à ramasser à la petite cuillère, des gosses tremblant de peur, dans le coma, en état de choc, mutiques, transis, encore vivants et déjà morts, maltraités, tout simplement, ou juste éliminés. Comment vous travaillez cette façon, c'est encore une fois ce jusqu'au boutisme du verbe et du mot?
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est que c'est encore une fois, ça fait partie de mes obsessions qui sont nombreuses, mais très très localisées. Je suis fasciné par l'accumulation, par la sérialité. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Le deuxième paramètre. Je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave.
Disons que nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a déjà un deuxième paramètre,
voilà,
au niveau
exactement.
De ces énumérations.
Exactement.
Et alors, comme ça, c'est vrai que dans le premier, j'ai vu que plusieurs chroniqueurs, plusieurs critiques avaient évoqué San Antonio. Et c'est vrai que lui aussi, je ne sais pas si vous avez lu sa prose, mais lui aussi, de manière totalement différente, part aussi dans des listes comme ça de mots, d'objets, de choses qui concernent beaucoup la chose d'ailleurs souvent et des énumérations qui s'arrêtent pas et il y a peut-être aussi je sais pas de,
moi, je crois
côté,
que ça appartient beaucoup à la littérature entre guillemets argotique, c'est-à-dire que le côté à la fois comique et en même temps qui peut être grotesque ou un petit peu effrayant. Ça tient ce genre d'énumération des gens comme Simonin ou des gens comme Audiard.
Il y a Audiard
qui fait ça très bien, qui fonctionne très bien sur ce système de d'accumulation comme ça. Et il y avait un écrivain aussi qui écrit maintenant pour la télévision, mais qui s'appelait Joël Houssin, qui était très bon dans ce registre-là aussi. Là pour le coup dans un genre beaucoup plus énergique. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'intéresse. Et c'est là-dessus que je travaille. Ça permet aussi, d'une certaine manière, de relâcher totalement la langue et d'apporter à l'intérieur du roman noir une certaine poésie.
Moi, j'allais parler de musicalité et de lyrisme.
Voilà, on peut dire ça aussi, éventuellement.
Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, dans San Antonio, c'était plus, enfin, à mon avis, il faisait ça comme un exercice de style. Regardez, je suis capable de le faire. Alors que là, c'est pas du tout ça. Ça, il y a une espèce de crescendo dans la description. Et les mots, en fait, s'enchaînent. C'est pas du tout exercice de style. Je sais le faire. C'est en fait, ça vient. Pour compléter le, chaque mot vient compléter le précédent, en fait, pour l'histoire, la phrase du début, en fait.
Et ça a un côté un petit peu hypnotique pour le lecteur aussi. Un petit peu comme une espèce de manipulation de l'écrivain vis-à-vis de celui qui va être en face et qui va lire ses mots.
Oui, exactement. Il y a un côté, je pense que ça apporte peut-être un côté hypnotique et aussi un côté, en tout cas, quand ça, dans les moments de tension, quand ça doit servir à l'histoire. Ça apporte aussi un espèce de côté, ça accentue à la fois la claustrophobie et ça apporte un espèce de côté nauséeux comme ça, qui est à mon sens, en tout cas pour ce que je veux faire, qui est intéressant.
Alors avant de parler de l'histoire de Versus, un petit morceau je crois de Lou Reed, me semble-t-il.
Oui, un morceau de Lou Reed, d'un disque de 1976 qui s'appelait Coney Island Baby, et le morceau qu'on a choisi s'appelle Coney Island Baby aussi.
Directement.
Come on, man. When I was a young man in high school, I wanted to play football for the coach. The old guys all told me he was mean and cruel, but man, I wanted to play football for the coach. Not big enough a linebacker, I played right in. I wanted to play football for the coach. 'Cause winning isn't everything, it's only the only thing. Vince Lombardi, right? I wanted to play football for the coach. I wanted to play football for the coach. 'Cause you know, man, I knew if it was in me, he would bring it out. I wanted to play football for that damn coach. 'Cause you know, man, if he's got anything, he's got to stand up straight or else he's gonna die. And damn it, the straightest man that I'd ever seen was here with me. You know, so I had to play football for the coach. I mean, man, I wanted to play football for the coach. All alone and lonely in your midnight hour, and you find that your soul is up for grabs. Oh, that's sweet, man. And sadness mixes with the sun that shines at dawn. Thank you, everything you've ever done. And now, remember the princess who stood on the hill. So-called friends are gone.
voilà, Lou Reed, pour évoquer maintenant le personnage principal de Versus, donc un roman, je rappelle, paru à la série Noire. Et ce personnage s'appelle Paul Nazzutti. Et au départ, au début, on le déteste, tout au moins je l'ai détesté. C'est une espèce de boule de haine qui n'aime rien, qui se défoule avec la dernière violence sur... On a l'impression au départ plus faible que lui, donc ça, c'est quand même, ça nous heurte beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui est un vieux flic quand même, qui est quand même, j'ai l'impression de la vieille garde, quoi, qui est pas passé par les dernières écoles de police à la mode. Et il semble en fait avoir tellement vécu de choses qu'il s'est libéré de tout code de conduite. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si, quand on veut parler, veut inventer un personnage comme ça, est-ce que c'est pour coller près d'une réalité et décrire ce que peu de gens ont décrit, ou alors un exercice qui consiste à inventer de toute pièce un personnage aussi pourri, tout au moins au départ?
Je pense que, juste pour faire une petite précision, je pense pas que ça soit un personnage qui se soit libéré de tout code de conduite. Je crois au contraire que c'est un personnage qui s'est forgé ses propres codes en dehors de la société, mais qui s'est forgé ses propres codes et qui est relativement inflexible là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il c'est une chose qu'il faut peut-être garder à l'esprit. Ceci dit, le lecteur est totalement libre d'interpréter le livre comme il veut, mais je pense que c'est peut-être une chose qu'il faut garder à l'esprit pendant tout le livre. Et je crois que la gageure du livre, effectivement, c'était de présenter un personnage qui avait tout de l'ordure et de l'être abject, et d'en faire petit à petit, au fur et à mesure du livre, quelqu'un de plus humain, quitte à ce qu'il soit monstrueusement humain, mais de en quelque sorte de provoquer une certaine forme d'empathie chez le lecteur, même si cette empathie peut être parfois désagréable à vivre. Mais je pense que c'était le challenge du livre.
C'est un challenge excellemment bien réussi, parce que effectivement, petit à petit, à un rythme effréné, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais petit à petit, on va découvrir des facettes de sa vie et de ce qu'il a vécu qui nous font comprendre beaucoup de choses. Alors, il y a quand même, on va quand même parler un petit peu de l'histoire. Donc, au départ, donc déjà, il a un nouveau coéquipier, André Otti. Malheureusement, on pourrait en parler pendant une heure de ce personnage aussi, mais on n'a pas trop le temps. Donc, des cadavres de pédophiles sont retrouvés avec une balle dans la tête tirée à bout portant, et à côté, des corps d'enfants dans des sacs en plastique. Et pas loin, sur les sacs, je crois, des poèmes, étrangement proches, ces poèmes, de ceux qu'un assassin d'enfants envoie à la mère d'une de ses victimes. C'est pas facile. Et ces poèmes sont d'un assassin, qui est enfermé en prison à la suite d'une enquête de Nazzutti, justement. Une manière très subtile pour l'auteur de ces lignes de nous faire plonger dans le passé, en fait, de Nazzutti. Et André Otti, justement, ça va être un peu son challenge, alors qu'il arrive avec déjà beaucoup de boulets dans sa tête, d'aller, de suivre Nazzutti dans ses fantasmes, dans ses idées, dans ses souffrances, et dans tout ce qui a forgé cet individu qui nous paraît terrible au départ et que vous éclairez petit à petit d'une lueur. Quelle était, en fait, est-ce que à un moment donné vous avez voulu lui donner de l'espoir à ce personnage Nazzutti et André Otti en même temps?
Oui, je crois que c'est un personnage qui garde toujours tout au long du livre à la fois la tentation de l'espoir mais aussi le refus de tout espoir. C'est un personnage qui est un petit peu paradoxal, qui est rempli de contradictions. Et le deuxième personnage, donc, qui est André Otti, qui est un flic un petit peu idéaliste, comme ça, sert un petit peu de contrepoint à cette espèce de radicalité extrême. Et ça permettait aussi de bien montrer de quelle manière le mal pouvait se transmettre. Et donc, on verra que ce personnage, là, André Otti, au contact de Nazzutti, va être en quelque sorte contaminé, et je vais pas vous raconter la fin du livre, mais
surtout
on verra,
pas.
Voilà. On verra à la fin du livre s'il s'en sortira et si dans quel état.
Dans quel état, oui, effectivement. Et puis un autre, alors là, j'ose dire, très beau personnage, c'est le personnage de la maman, justement, d'une des victimes, Rose, qui est un personnage qu'a dû rencontrer Nazzutti il y a 20 ans et que re-rencontre Nazzutti. Et on a l'impression à un court moment du livre que ça pourrait être une planche de salut, que ça va pouvoir être peut-être sa rédemption, son sauvetage. Et on se demande si vous avez vraiment voulu ça presque à un moment donné, si ce coin de ciel bleu que vous nous mettez au milieu, c'était pas un petit peu, si vous n'avez pas voulu très vite l'éliminer en fait.
Non, c'était tout à fait conscient de ma part. Ça pouvait montrer, si vous voulez, je pense que les deux personnages. Nazuti et Rose,
excusez-moi.
Au fil du livre, on va avoir un parcours un petit peu opposé, c'est-à-dire Rose, c'est quelqu'un qui va de l'obscurité vers la lumière, et Nazuti, c'est quelqu'un qui va aller de l'obscurité à la pénombre la plus totale. Et j'ai un parcours un petit peu inverse. Et au moment où ils vont se rencontrer, effectivement, Nazuti va avoir la tentation d'abandonner, de laisser de côté toute la haine qui le ronge, et il va se rendre compte en même temps que c'est cette haine qui le fait tenir et qui fait qu'il existe toujours, et donc il va refuser cette planche de salut et il va continuer sa route pour le pire, probablement, comme dans tout roman noir qui se respecte.
J'apprécie beaucoup que vous employiez ce mot parce que c'était le sujet de la prochaine question. On a l'impression, et je vais me permettre d'être très vulgaire à l'antenne, mais une des manières dont ces romans sont foutrement couillus, c'est que vous avez choisi de faire que c'est la haine qui soit le moteur de leurs actes. Et ça, je trouve ça très courageux de la part d'un écrivain qui, des fois, a tendance à tomber dans le consensuel ou dans l'envie de faire plaisir à des lecteurs ou à des fans potentiels, c'est de faire, de montrer, ben non, c'est pas ça. C'est pas le bien, les gentils et la bonté qui va faire avancer les choses. Dans ce monde-là, dans ce que je vous décris, il y a quelque chose qui peut faire avancer, c'est la haine. Oui. Ben, moi, j'ai ressenti ça comme ça.
Oui, exactement. C'est pour montrer que la haine, ça peut aussi être un mécanisme de survie pour certaines personnes. Tout comme dans le premier roman, Aime-moi Casanova, c'était à la fois l'addiction, mais surtout la colère. qui servait de moteur.
Et puis un peu de culpabilité au tout début par rapport à son histoire personnelle et la perte de son enfant.
Oui, exactement. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait tenir les personnages. Et en l'occurrence, dans Versus, je crois qu'il fallait aller jusqu'au bout de la logique du personnage. Qui est quelqu'un qui haït l'humanité entière, et il fallait vraiment aller jusqu'au bout, et je crois qu'il fallait pas tergiverser et essayer de d'être consensuel à un moment ou à un autre, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce roman.
En fait, le seul côté rose, c'est le prénom de l'héroïne, enfin de la, de la.
Nous vous remercions de cette merci. Intervention.
Exactement.
qui va d'ailleurs clore malheureusement cette émission parce que comme toujours le temps passe trop vite. Donc on va rappeler Aime-moi Casanova versus Antoine Chénas. C'est vraiment deux romans à découvrir. Un de nos enthousiasmes de l'année 2008 versus Aime-moi Casanova, c'était l'année dernière. C'est à la Série Noire chez Gallimard. Il faut absolument le réclamer à votre libraire favori et préféré. Au revoir, à la prochaine fois.